Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. La semaine dernière, je vous proposais le 2e numéro de Sans langue de bois s'amuse, jeu sur l'actualité politique dans une bonne humeur, pour le moins contagieuse, avec autour de la table Tatiana, Caroline, Louis, Amos et Thomas, qui comme d'habitude vous dévoile le programme de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, l'intervention française au Mali, premier acte présidentiel majeur pour François Hollande, baptême du feu et occasion d'un consensus assez rare pour être signalé en cette rentrée 2013, particulièrement chargée et bousculée pour le président de la République, un sujet préparé par Colline Allier. L'enquête de la semaine réalisée par Mathilde Ferrez sera consacrée à la question du mariage pour tous, question qui divise profondément les Français à coups de slogans chocs et de manifestations géantes. En fin d'émission d'ailleurs, à l'occasion de ce débat du mariage pour tous, nous mettrons en lumière la reconversion professionnelle de Christine Boutin. Sans oublier la chronique mensuelle de Jérôme Bastic, Vue d'Europe, la rubrique Droit de suite et deux éditoriaux, cette semaine proposés par Louis Dubost et Willem Ardouin, qui reviendront tous deux sur la question du mariage pour tous.
Au Mali, j'ai retrouvé. Au Mali, ma liberté. Au Mali, j'ai retrouvé. Au Mali, ma liberté.
Alors à la une de l'actualité politique de ce début d'année 2013, alors qu'on vient à l'instant d'entendre un extrait d'Am C'est Tout du chanteur M, l'intervention française au Mali, toujours en cours, décidée par François Hollande le 11 janvier dernier dans l'après-midi. Et des questions. Pourquoi la France est-elle intervenue dans ce conflit? Quelles sont les causes profondes de ce dernier conflit qui a lieu entre le nord et le sud Mali, rappelons-le.
Au Mali, j'ai retrouvé, au Mali, ma liberté, un sujet réalisé par Colline Allier. Bonjour Colline.
Bonjour.
Et pour bien comprendre Colline, le conflit actuellement en cours au Mali, il faut revenir sur la situation du pays lui-même.
Exactement. Précisons en préambule que le Mali existe en tant qu'État depuis le 22 septembre 1960 et la finalisation de son indépendance fait suite à l'éclatement de la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal et le Soudan français. Ces frontières datent de la colonisation française et ont donc été tracées sans tenir compte des différentes ethnies qui cohabitent dans le territoire. Elles sont purement géométriques.
Et géographiquement, il existe deux zones bien distinctes au Mali, séparées d'ailleurs par le fleuve Niger.
Tout à fait, Thomas. Au nord du pays, on trouve un climat quasi désertique, subsaharien, tandis que la région du sud, sahélienne, est plutôt fertile. Ainsi, plus on descend dans le pays, plus la population est dense et le maillage des villes resserré.
Et au nord, eh bien, ce sont essentiellement des ethnies nomades qui habitent, arabo-berbères notamment, dont les plus connus sont les Touaregs.
Oui, et si aujourd'hui un conflit armé existe entre le nord Mali et le sud Mali, ils en sont les principaux responsables. Néanmoins, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les raisons profondes de cette dissension sont plus historiques et culturelles que religieuses. Les Touaregs pratiquant l'islam de manière très tempérée et accordant une large place aux femmes au sein d'une société qui, par ailleurs, pratique la monogamie et la filiation matrilinéaire.
C'est bien de le préciser, Colline, parce qu'on a un peu l'impression dans les médias que cette intervention française au Mali, elle prend des airs de croisade contre l'islamisme, alors que tu le disais à l'instant, la principale dissension qu'il y a entre le nord et le sud du Mali, eh bien, elle est avant tout culturelle.
Oui, les Touaregs sont radicalement différents des autres catégories de populations qui vivent en Afrique du Nord. Ils ont leur propre langue, le tamashak, leur propre alphabet et une culture à part, ce qui explique ces dissensions. De surcroît, ils s'éloignent même physiquement de leurs voisins, étant essentiellement blancs de peau. De nos jours, on trouve à peu près 1,5 million d'individus répartis dans des tribus Touaregs. La moitié d'entre eux sont au Niger, un tiers au Mali et le reste dans d'autres pays frontaliers du Sahara. Or aujourd'hui encore, les Touaregs maliens revendiquent un état indépendant dans le nord Mali, estimant qu'ils possèdent une langue et une culture qui les séparent du reste de la population malienne.
D'ailleurs, il faut préciser que l'histoire des Touaregs, en général, c'est celle d'une lutte constante pour l'affirmation de cette nationalité Touareg. C'est celle d'une rébellion nécessaire, eux qui furent notamment le dernier peuple nord-africain à résister à la colonisation française.
En effet, le caractère belliqueux de leur tribu les conduisit à de maintes reprises à se révolter contre la domination française. Si les Français ont par exemple bâti une forteresse à Kidal, une ville dans la partie nord-est du Mali, ils ont malgré tout eu beaucoup de difficultés à obtenir la reconnaissance des leaders Touareg les plus obstinés, qui en voulaient à la France de s'être emparée du commerce transsaharien, de prélever des taxes punitives et d'intervenir dans leurs relations avec les communautés sédentaires. En 1916 eut lieu la première grande révolte Touareg, celle de Kaosène. qui fut fermement réprimé par l'armée française.
Alors ensuite, à la veille des indépendances, en 1958, fut créé le MPA, le mouvement populaire de l'Azawad, qui revendiquait déjà la constitution d'un État Touareg. Alors l'Azawad étant la région située au nord-est du fleuve Niger, qui comprend les villes de Tombouctou, dont on parle beaucoup dans ces derniers temps, dans le cadre de l'intervention française au Mali, et de Gao et Kidal également.
Mais lorsque la France quitte définitivement le pays, en 1963, le MPA se fait écraser par l'armée malienne. Les massacres de civils, l'empoisonnement des puits et la destruction des troupeaux de bétail ont bien été documentés et sont couramment cités dans la littérature et la musique touareg, ainsi que dans les manifestes et les programmes des mouvements rebelles qui ont vu le jour par la suite. Une haine naît donc chez les Touaregs contre les Maliens.
C'est ça la dissension dont tu parlais, dissension culturelle et accentuée par l'histoire. Et en 1988 est fondé le MPLA, le Mouvement Populaire de Libération de l'Azawad, qui fait suite à la destruction du MPA, et on reprend presque les mêmes termes. Il organise des rébellions sporadiques contre l'État malien de 1990 jusqu'en 1996, année d'un traité de paix signé à Tombouctou, un traité de paix qui dura 10 ans.
10 ans en effet. C'est en 2006 qu'une nouvelle révolte éclate, avec l'apparition d'un nouvel acteur au Nord Mali. Des groupements terroristes dans ces régions, tels que l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique notamment, ce qui effraie l'Occident, encore sous le traumatisme des attentats du 11 septembre.
Oui, en fait, ce qui est craint à l'époque, c'est l'existence de liens, une collusion entre ces deux contestataires, Touareg d'un côté et groupe islamique de l'autre.
Ainsi, les accords d'Alger, garantissant un plus grand respect au peuple Touareg, sont signés, vite. Mais ils peinent à être respectés.
Oui, et pendant ce temps-là, près de 5000 Touaregs sont enrôlés par l'armée libyenne, dirigée déjà à l'époque par le général Kadhafi, bien sûr, qui leur assure protection et respect.
Je cite « La Libye est le pays des Touaregs, leur base et leur soutien », avait-il déclaré en 2005 devant des chefs Touaregs qu'il avait invités à Oubari, une ville dans le centre-sud libyen. Les Touaregs y obtiennent une formation militaire dans cette armée. Mais ils écopent aussi de l'endoctrinement islamique qui existe dans l'armée libyenne. Ainsi, lorsque Muammar Kadhafi est renversé, en février 2011, des milliers d'hommes regagnent leur territoire, le Nord Mali, le militarisme et l'islamisme.
Alors en parallèle de ce phénomène important pour la compréhension du conflit au Nord Mali, on a un nouveau mouvement Touareg, issu d'une fusion entre plusieurs groupements, qui naît en octobre 2011, le MNLA. Vous voyez, peu de choses nouvelles sous le soleil malien, puisque le MNLA, c'est le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, et on voit le lien très clair, la filiation entre le MPA, le MPLA et le MNLA.
En effet Thomas, leur discours n'évolue guère. Le MNLA parle de se libérer du colonialisme malien. Son président, Mahmoud Agali, déclare d'ailleurs que « les populations du Nord et du Sud Mali sont trop différentes pour composer un État ensemble. Nous en appelons à la communauté internationale afin qu'elle convainque le Mali de nous donner notre indépendance. »
Sauf que MPA, MPLA, MNLA, même discours, même échec. Et pendant ce temps-là, d'autres mouvements intégristes et islamistes, quant à eux, prospèrent, bénéficiant à plein du retour de ces hommes formés en Libye à l'art de la guerre et à l'islam radical dont tu as parlé tout à l'heure, Colline.
Naissent ainsi des mouvements comme l'Ansardine ou encore le Mujao, dont l'objectif est d'imposer la charia et face notamment à l'échec du MNLA, ils prennent de l'influence.
Ainsi, en mars 2012, le MNLA est presque obligé de s'allier avec ces groupements que tu viens de citer, Colline, parce qu'ils sont de plus en plus influents et pour combattre l'armée malienne, on a besoin de son soutien. Même si, en parallèle, le MNLA s'emploie à rappeler que la république pour laquelle lui se bat est fondée sur des principes de laïcité et de démocratie. Alors s'ensuit le début d'une véritable guerre civile au Mali qui a fait la une de tous les médias l'année dernière, qui a débouché à un coup militaire à Bamako, l'actuelle capitale du Mali, le 21 mars 2012, et la proclamation de l'État indépendant de l'Azawad, enfin, le 6 avril 2012.
Cependant Thomas, des dissensions internes apparaissent entre le MNLA et les groupements intégristes, qui parlaient d'abord de n'imposer qu'une partie de la charia, mais finalement l'instaurent entièrement dans une région qui n'est islamisée que modérément. Ces tensions relancent des combats armés, notamment dans la ville de Gao, où le MNLA accuse une grande défaite au mois de juillet. Fin août, les islamistes avancent vers le sud.
On l'aura donc compris grâce à ton analyse très approfondie, Colline. Le conflit qui se déroule actuellement au Mali est complexe du fait de la multiplicité des acteurs qui entrent en jeu et du fait de la profondeur des dissensions culturelles, géographiques et historiques qui existent entre le nord et le sud Mali et qui ont été accentuées récemment par l'implantation de groupements islamistes terroristes qui ont ainsi fait émerger la question religieuse, absente jusque-là des revendications nationalistes touareg.
Or les événements, Colline, ils se sont accélérés au Mali ces derniers temps.
En effet. Puisqu'il y a à peu près 2 semaines, lorsque l'actuel président malien par intérim, Diokounda Traoré, voit la situation militaire se dégrader rapidement pour l'armée malienne et les insurgés se dirigeaient vers Mopti, une ville située le long du fleuve Niger, dernier verrou avant la capitale Bamako. Il appelle le président français, François Hollande, et lui demande une aide immédiate.
En tant qu'ancienne puissance coloniale saharienne, la France est liée par des accords de défense avec Bamako.
De plus, en sa qualité de principal partenaire économique et premier bailleur de fonds du Mali et du Niger, elle se doit de contribuer à leur stabilité politique. Il ne faut pas en outre oublier que le Nord Mali est la troisième région productrice d'or en Afrique.
Oui, et François Hollande décide donc, pour toutes ces raisons, dès le 11 janvier, dans l'après-midi, d'engager l'armée française.
C'est le début de l'opération Serval, qui durera le temps nécessaire. L'opération a officiellement pour but de mettre un coup d'arrêt brutal à l'avancée des groupes djihadistes vers le sud du Mali et d'assurer la sécurité des 5000 ressortissants français présents dans le pays. Le nombre de militaires français actuellement déployés au Mali, 750 hommes, va augmenter. Au total, le contingent français pourrait atteindre 2500 militaires, selon le ministère de la Défense. Toutefois, le plus rapidement possible, les Français laisseront la place aux Africains, a assuré le président de la République. Ce sera à eux de conduire jusqu'au bout de la reconquête du Nord, a-t-il répété. Le déploiement africain interviendra dans une bonne semaine.
Et dans le monde, l'intervention française, telle que tu l'as décrit, elle est unanimement félicitée.
En effet, l'OTAN salue l'action très rapide de la France pour repousser l'offensive des organisations terroristes. Et le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, soutient l'opération au titre qu'il est urgent de stopper les terroristes et d'assister le gouvernement du Mali à retrouver le plein contrôle de son territoire.
En France, cette intervention, elle revêt une toute autre importance puisqu'il s'agit du baptême du feu pour le président Hollande en tant que chef des armées.
Il est approuvé par la majorité du corps politique français, notamment l'opposition, ce qui change des attaques devenues habituelles qu'il subit sur la scène gouvernementale. Contre le terrorisme, la France doit parler d'une seule voix. Total soutien à l'intervention militaire de nos forces armées au Mali, a tweeté par exemple l'ex-ministre UMP Nadine Morano, quelques minutes après l'allocution de François Hollande depuis l'Élysée. Marine Le Pen, la présidente du FN, a elle souligné que cette intervention doit être soutenue, dans la mesure où notre pays a été appelé à l'aide par le gouvernement légitime du Mali en application d'une coopération de défense entre nos deux pays, dans une zone francophone.
Alors quelques critiques, néanmoins, qui se sont fait entendre dès le vendredi 11 janvier dernier.
Oui, le député écologiste Noël Mamère, par exemple, a dit s'étonner que le président de la République reproduise les mêmes méthodes que son prédécesseur en ne saisissant le Parlement qu'une fois les opérations lancées. Pour le coprésident du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, l'intérêt d'une intervention militaire extérieure pour régler le problème posé au nord du Mali est discutable. Et en décider seul, sans en saisir préalablement ni le gouvernement ni le Parlement, est condamnable.
Alors on peut pour conclure évoquer les menaces terroristes qui inquiètent la France. Près de 2/3 des Français pensent que l'intervention au Mali augmenterait les risques d'attentats, selon un sondage du quotidien Le Figaro. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, quant à lui, en appelle à la vigilance et à la prudence. Et le plan Vigipirate a été renforcé.
Au Mali, j'ai retrouvé au Mali ma liberté, un sujet réalisé par Colline Allier.
Au Mali, j'ai retrouvé au Mali ma liberté. Au Mali, j'ai retrouvé.
Un Mali partagé en deux et une France également divisée, alors de manière moins tragique, hein, certes, entre partisans et opposants du mariage pour tous, c'est-à-dire opposants et partisans à la loi Taubira, pour être précis, qui regroupe les questions de l'égalité du droit au mariage et à l'adoption entre couples hétéro et homosexuels.
C'est justement le sujet du mariage pour tous que Louis Dubost, un de nos quatre éditorialistes habituels, a décidé d'aborder, puisque vous le savez maintenant, Sans langue de bois, c'est le choix d'accueillir toutes les options, parfois opposées, voire contradictoires, toutes les sensibilités politiques, pour enrichir et nuancer la réflexion et le débat public.
Place donc au premier éditorial de l'année et à la plume de Louis Dubost. Bonjour Louis, alors tu as l'honneur en plus de faire le premier éditorial de l'année.
Ah, j'en suis enchanté. Bonjour Thomas. Si j'aborde ici la question jusque-là soigneusement évitée du mariage homosexuel, baptisé d'ailleurs avec un sens savoureux de la litote « mariage pour tous », quand pourtant seule une infime minorité de la population est concernée, c'est un peu, je dois le dire, dans le cadre d'une émission qui est au moins partiellement consacrée, contraint et forcé. D'abord, parce que je n'ai pas la prétention d'apporter beaucoup de grains à moudre à cette question où tout me semble avoir été dit. avec parfois, du côté de certains esprits chagrins, un soupçon d'homophobie voilée, et de l'autre bord, une palanquée d'hypocrisie, de mauvaise foi, de mensonges et diffamation. Mais comment aussi s'en étonner, le gouvernement ayant refusé d'organiser un salutaire débat de fond au profit, comme d'habitude, de la démagogie et de la précipitation. Ensuite, et c'est la raison qui m'amène à ne pas avoir abordé plus tôt la question, je me sens encore assez partagé sur ce sujet et espère avoir ici l'occasion de mieux peser le pour et le contre, sans bien sûr, comme toujours, prétendre à l'exhaustivité. Alors, laissons d'abord parler mon gros bon sens généreux. Deux femmes ou deux hommes ne sont-ils pas en mesure d'apporter autant d'amour à un enfant qu'un couple hétérosexuel ? Bien sûr que si. Ne peut-on comprendre qu'un homosexuel cherche à devenir parent s'il estime que cela est constituant de son bonheur ? Je n'y trouve évidemment rien à redire, c'est au contraire même plutôt une pensée qui l'honore. Alors, les enfants élevés par deux pères ou deux mères sont-ils davantage enclins que d'autres à développer des penchants homosexuels ? Rien, franchement, ne permet de l'affirmer. Parce que Gide ou Monterland sont des hautes figures de la communauté homosexuelle dont les goûts se portaient vers de très, très jeunes et faibles, il faut le reconnaître, est-il à craindre que l'adoption soit massivement détournée au profit de pratiques pédophiles ? Cela me semble, pour être franc, assez difficile à défendre. Tout semble donc concorder vers une acceptation benoîte de cette loi ô combien symbolique. Je serai ainsi rassuré dans mon égoïsme, que je baptiserai d'ailleurs pour l'occasion progressisme, la conscience rassasiée de ma bonne action, et je pourrai jouer au grand seigneur libéral en accordant une liberté qui me coûte d'autant moins qu'elle ne concerne, comme je l'ai déjà dit, qu'une poignée de citoyens, dont je ne suis d'ailleurs pas. Néanmoins, en moi, vous vous en doutez peut-être, quelque chose résiste, et c'est justement là-dessus que j'ai peiné à mettre le doigt. On me dit que la famille n'est plus ce cadre figé, un peu caricatural que Civitas nous impose. J'en conviens de bonne grâce. Il existe des familles divisées, recomposées, des orphelins, de mauvais parents, tout simplement. Bref, mieux vaut être élevé par deux papas responsables et aimants que par tes vrais géniteurs s'ils t'imposent une vie malheureuse. Assurément, c'est là une lapalissade bien commune dont j'ai peine à percevoir la force. Mais ces tristes cas que nous venons d'évoquer ne sont là que des accidents à partir desquels aucune règle générale ne saurait être tirée. Que certaines mères indignes aient commis l'infanticide alors qu'elles avaient un conjoint, pour reprendre l'argument de Bernard-Henri Lévy, décidément d'ailleurs de plus en plus sénile, protègent-ils les enfants adoptés par les couples homosexuels de subir eux aussi toute maltraitance ? La réponse, à mon avis, s'impose sans qu'il y ait, je crois, matière à insister davantage. Concentrons-nous sur les vrais enjeux de la réforme. L'adoption, car c'est ça qui est en ligne de fond, l'adoption est douloureuse, difficile. Nul ne peut empêcher un enfant de chercher à percer le mystère de ses origines, de rejeter éventuellement les parents adoptifs qui l'ont accueilli comme un fils dans leur maison. Je ne dispose pas de statistiques, mais je crois ne pas trop m'avancer pour dire que ces problèmes sont, si ce n'est systématiques, du moins récurrents et difficilement surmontables. Or, il y a en France aujourd'hui 10 familles qui demandent à adopter pour un orphelin. Il va donc falloir développer l'offre pour répondre à la nouvelle demande, qui ne manquera pas d'être importante. On achète déjà à la carte des nouveaux-nés aux États-Unis ou en Belgique. C'est là que la GPA, Gestation pour autrui, entre en scène. GPA qui n'est, n'est-ce pas, que le Made in France d'Arnaud Montebourg, mais appliqué ici sans grande rigueur à la bioéthique. N'est-il pas tout de même piquant que la gauche, censée nous protéger du libéralisme échevelé, ce dont d'ailleurs je lui serais gré, mettre sur pied une réforme qui assoit au contraire le triomphe absolu d'un modèle capitaliste anthropophage, qui rend de plus en plus avant dans notre intimité, au point de soumettre l'enfant. L'enfant qui est peut-être l'humain sous sa forme la plus vulnérable, en produits de consommation courante, demain coté en bourse au même titre que les produits industriels ou le quintal de céréales. D'abord donc, il y a un grand étonnement. J'avais cru comprendre qu'en ce 21e siècle où triomphaient les non-valeurs du libéralisme et de l'individualisme, le couple bourgeois, image de la vieille France catholique, était bel et bien enterré, que ces derniers tueraient Ferrer, s'enferraient dans une ringardise toute provinciale, et que le mariage, comble du mauvais goût, liberticide et phallocratique, faisait frémir d'horreur une jeunesse dans le vent, adepte d'une sexualité d'humeur plus butineuse. Quelle ne fut pas, je dois l'avouer, ma joie d'apprendre, moi qui vis en couple depuis des années, moi qui devais subir les sarcasmes de mes camarades moins popotes, d'apprendre donc, disais-je, que mon mode de vie et mes aspirations enflammaient désormais le très tendance quartier du Marais, et qu'on y défilait pour avoir le droit de me ressembler. Croyez bien que je suis très fier d'inspirer des mœurs aussi estimables. Il ne saurait donc y avoir dans mes propos une once d'acrimonie, et je dis tout ça à sourire aux lèvres, sympathie au cœur. Mais vous me permettrez d'être surpris que bon nombre d'homosexuels, après avoir réclamé ce que la société ne leur reconnut d'ailleurs que difficilement. Un droit à la différence veuille désormais se fondre dans la masse anonyme, redevenir monsieur tout le monde. Bâcler une noce devant un conseil municipal indifférent, acquérir à crédit un pavillon de banlieue standardisé, torcher des mômes qui ne seront même pas les vôtres, voir à mesure son pouvoir d'achat s'effondrer pour finir con et aigri comme tout à chacun de n'avoir pas réalisé le dixième de ses désirs. Le voilà donc, le rêve de la jeunesse libertaire, émancipé de tout préjugé. Mesdames et messieurs, homo de droite, homo de gauche, on vous a méchamment entubé. Aussi, redevenons plus sérieux. L'objectif fondamental n'est pas d'accorder un droit supplémentaire aux homosexuels, ce que je leur connaîtrais de bon droit, au nom d'une acception d'ailleurs particulièrement pauvre et paresseuse de l'égalité, confondue, comme le rappelait la philosophe Sylviane Agachinsky, avec l'identité, mais bien de s'attaquer au mariage en tant qu'institution laïque, certes, mais héritée de représentations chrétiennes. C'est le dernier bastion religieux qu'on attaque ici. Oh, je vous arrête ! Ce n'est pas ici le vierge bigot qui vous parle ou l'imprécateur furieux de son impuissance et s'épuisant dans les profondeurs glauques de sa sacristie délaissée. Je ne suis ni croyant ni même baptisé et peux donc parler en toute liberté. Je réclame juste la totale lucidité sur l'œuvre de sape qui s'accomplit. On liquide le passé. On interdit aux enfants de s'interroger sur leurs origines, sur la destinée d'une famille, aux racines profondément enfouies dans l'histoire. On en fait des déracinés, sans histoire, cantonnés à leur simple existence biologique, consommateurs réduits à n'investir que le présent, faute de se nourrir d'un passé familial. Et je trouve qu'on leur promet là une pauvre petite vie, bien chétive. Alors, faut-il trancher ? Je ne me sens ici, pour être avec vous totalement honnête, capable de juger personne. Je sais en revanche que les pères de famille, les étudiants, les philosophes, les politiques, les mères inquiètes, les religieux qui défendent les droits de l'enfant me sont infiniment plus sympathiques que les ayatollahs progressistes, bilieux et géniards, toujours dans le vent, toujours prompts à tonner contre le péril fasciste, quand c'est leur terreur qui empoisonne aujourd'hui un débat dont personne, personne ne sortira grandi. Mais cette appréciation toute affective ne saurait constituer, bien sûr, le terme d'un raisonnement. Aussi, tentons de nous montrer lucides. Les homosexuels adoptent déjà. À rien ne sert de cacher la poussière sous le tapis. Mieux vaut peut-être, oui, que la loi encadre une situation de fait, pose des garde-fous, protège les enfants et leur permette de vivre au grand jour la construction de leur famille si singulière. Mais entendez-moi bien, si nous suivons cette loi à contre-cœur, un peu par lâcheté, je dois le dire, par fatalisme, et pas très fier, au moins clamons-nous haut et fort que nous ne sommes pas dupes, que nous savons notre société attaquée et que nous connaissons les coupables. Puissent-ils un jour payer cher leur cynisme ? Voilà, en deux mots, pour éviter tout malentendu, je crois que je ne pouvais pas plus clairement dire que j'étais pour, tout en manifestant avec franchise que j'étais radicalement contre.
Merci Louis. Alors le prochain éditorial, le deuxième donc de cette année 2013, sera également consacré à cette question du mariage pour tous. Et tout de suite, place à l'enquête de la semaine. On reste sur le même sujet puisque Mathilde Ferrez a enquêté cette semaine sur cette question polémique du mariage pour tous.
Ou un gentil, alors tu te maqueras avec quelques jours ou pour la vie. T'aiderais peut-être d'un enfant, il y en a plein des orphelins. Sauf que pour vous, papa, maman, c'est juste interdit par la loi. Petit bébé.
À l'instant, la voix de Renaud et un extrait de Petit PD, chanson bouleversante sortie en 2002.
11 ans plus tard, les homosexuels vont peut-être accéder à ce droit interdit par la loi, comme le chantait à l'instant Renaud. Christiane Taubira a en effet mis au jour le 31 octobre dernier le projet de loi sur l'égalité des droits pour les couples homosexuels. Suite à cette annonce, chacun y est allé de son avis, tant dans les couloirs de l'Assemblée, dans les partis que dans la rue.
Et ça n'en finit pas, Marie-Ève. Plusieurs manifestations d'envergure, contre ou en faveur du projet, ont lieu ou vont avoir lieu, que ce soit au mois de décembre, au mois de janvier, et encore, il y en a qui sont programmés. Seulement,
Les opinions sont souvent nourries de fantasmes et d'amalgames qu'il convient de dénoncer et de rectifier.
Retour précis donc sur le projet de loi et les réactions au sein du paysage politique. Petit PD, une enquête réalisée par Mathilde Ferrez.
Le projet de loi qui entrera en discussion à l'Assemblée le 29 janvier prochain ne concernera que l'autorisation du mariage entre personnes de même sexe et l'adoption par des familles homoparentales.
Après plusieurs débats, les socialistes ont en effet renvoyé à un nouveau texte la question de la procréation médicalement assistée, PMA, qui permettrait à des lesbiennes d'avoir recours à l'insémination artificielle, une question qui touche à la bioéthique et demande des consultations nationales.
Ainsi, la proposition de loi n'est pas un triptyque indissoluble qui regrouperait mariage, adoption et PMA, comme le laissent parfois penser les débats que le projet a soulevés.
Oui, Thomas, le mariage pour tous est davantage un diptyque qui comporte des réelles avancées pour les couples homosexuels.
Et le mariage, Marie-Ève, en constitue la première étape, et finalement la plus simple à réaliser, puisqu'une fois la réforme votée, il n'y aura plus qu'un seul mariage, ouvert indifféremment à tous et imposant les mêmes interdits, les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Deuxième étape ensuite, l'adoption.
Et c'est vrai que là, Marie-Ève, il convient de préciser dès l'abord que, légalement, les homosexuels ont déjà le droit d'adopter. En effet, l'adoption est autorisée, je cite, à toute personne âgée de plus de 28 ans. Et elle est dissociée du mariage dans le code civil. Ce que changera donc le texte de loi, c'est que les homosexuels pourront désormais adopter à deux, afin que, légalement, l'enfant ait deux papas ou deux mamans, c'est-à-dire deux parents. Pour les enfants déjà adoptés par un parent homosexuel, dans le cadre du mariage tel qu'il est prévu par la loi Taubira, le changement majeur qui interviendrait, ce serait pour les conjoints. Ils pourront dès lors adopter, comme tous les gens mariés, l'enfant de leur conjoint et devenir officiellement le second parent. La réforme mettra fin à ce que de nombreux homosexuels considèrent comme une injustice. Élever un enfant en le considérant comme le sien propre sans qu'il y ait de reconnaissance juridique et légale de ce lien de filiation.
C'est finalement en ce qui concerne la parentalité que la loi promet les plus grandes avancées pour les homosexuels. Seulement du côté des opposants, c'est surtout là que le bas blesse.
Ouais, si le mariage pour tous, Marie-Ève, est source de clivage, c'est donc en effet bien à propos de l'homoparentalité.
Et c'est d'abord le clergé et certains pratiquants qui ont manifesté leur réticence vis-à-vis du projet.
Bien avant la présentation officielle du texte, du côté catholique, le cardinal Philippe Barbarin a exprimé sans réticence sa farouche opposition en considérant qu'accepter le mariage gay conduirait nécessairement à des dérives telles que l'autorisation de l'inceste, par exemple.
Le parti pris de l'archevêque de Lyon représente une position pour le moins sans langue de bois dans la frange catholique. Même si bon nombre de catholiques grossissent les cortèges des manifestations des opposants, il ne faut pas non plus voir en eux de nouveaux croisés. En août dernier, un sondage IFOP montrait par exemple que 45% des catholiques pratiquants étaient au moins favorables à l'ouverture du mariage aux homosexuels. Et certains diront également, pour nuancer, que lors de la dernière manifestation du 13 janvier, les représentants des religions n'ont pas officiellement appelé à manifester.
Pour nuancer peut-être, mais ce silence, c'est surtout le résultat d'une stratégie pensée et décidée en septembre dernier par la conférence des représentants des cultes de France. Les responsables religieux refusent que l'idée d'une coalition des religions contre le pouvoir en place se crée en effet dans l'opinion.
En revanche, à l'UMP, Thomas, on réagit avec moins de circonspection.
Et oui, l'opposition au projet de loi et les appels à manifester contre le mariage pour tous sont clairs et sans bavure. L'opposition de l'UMP à ce projet n'est d'ailleurs en soi pas particulièrement étonnante. La droite est traditionnellement plus conservatrice sur les sujets de société.
Mais si on regarde de plus près les arguments de Jean-François Copé, là, on s'étonne un peu.
En effet, le premier argument du président de l'UMP est celui de la division que crée ce débat au sein de la société française. Alors que celui qui a adopté sans concession l'héritage de Nicolas Sarkozy, et l'a même parfois approfondi sans vergogne, exprime une préoccupation à propos d'un clivage social possible, prête franchement à rire, mais d'un rire un peu jaune quand même.
Ce qui est gênant également dans l'opposition que l'UMP manifeste, c'est qu'on sent plus le parti pris que, la véritable conviction.
En effet, face à l'ampleur qu'a pris le débat, Jean-François Copé en a profité pour s'exprimer, soucieux de retrouver de la crédibilité dans le domaine. Et l'UMP se veut même force de proposition. Elle a soumis l'idée d'un référendum. Lors d'un débat au sein de l'hémicycle, le 15 janvier dernier, les députés UMP ont scandé le mot « référendum » tout en tapant sur leur pupitre pour donner plus de force alors que Christiane Taubira tentait tant bien que mal de s'exprimer.
Mais une nouvelle fois, cette proposition amuse ou fait rire jaune, comme tu le disais.
Oui, parce que selon le professeur de droit public Guy Carcassonne, bien connu, cette revendication, elle est, je cite, doublement insolite. Tout d'abord, parce qu'elle n'est tout simplement pas conforme à la Constitution qui limite le champ d'utilisation de cette procédure à des sujets précis tels que l'organisation des pouvoirs publics ou les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale dont le mariage pour tous ne fait pas partie. Et puis, insolite parce que, ironie du sort, le champ du référendum, qui fut élargi une première fois en 1995 par la majorité de l'époque RPR-UDF, fut fermé, en revanche, à une plus large ouverture à toute question de société, le Parlement n'en voulut pas et prit soin, au contraire, de les écarter. Et d'ailleurs, même phénomène en 2008 sous le mandat Sarkozy.
Les partisans UMP d'un référendum sur le mariage pour tous baignent alors aujourd'hui dans une situation paradoxale. Ils nient l'impossibilité du référendum tout en oubliant que cette impossibilité a été délibérément voulue et maintenue par eux-mêmes.
Enfin, le premier parti de droite de France répète à l'envi que le pouvoir en place ferait mieux de se préoccuper de la situation économique de la France plutôt que d'une question comme celle du mariage pour tous. C'est ce même argument qu'a d'ailleurs prôné Marine Le Pen sur RTL au lendemain de la manifestation du 13 janvier et elle aussi propose un référendum.
Les droites, l'extrême droite et cette droite extrême se retrouvent donc une nouvelle fois sur des questions sociales.
On ne peut pas dire qu'elles aient forcément tort de rappeler les urgences économiques auxquelles la France doit répondre. Les réformes dites sociétales, avec cet affreux adjectif qu'utilisent tous les journalistes, ne peuvent pas en effet servir d'alibi à l'inaction du pouvoir sur le terrain économique.
Et il semble, Thomas, encore plus malsain de considérer que ces réformes de société ne concernent qu'une minorité de bobos éclairés et de les opposer aux urgences sociales qui préoccupent la masse du peuple.
Oui, au-delà des questions légitimes que chaque citoyen peut et doit se poser sur le devenir de la famille, il convient juste de rappeler que ce texte embrasse l'évolution de notre société et offre un cadre juridique et protecteur à une réalité de fait. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont élevés en France aujourd'hui déjà par des couples homosexuels. Face à cette réalité, peu d'arguments d'opposition au mariage homosexuel tels qu'ils sont actuellement développés semblent pertinents, parce qu'il s'agit ici de la réalisation d'une égalité des droits, corollaire d'une certaine idée de la dignité humaine.
Petit PD, une enquête réalisée par Mathilde Ferrez.
Et on finit comme on a commencé cette enquête, en chanson, avec mon homonyme d'Aldebert, en duo avec Simon Mimoun.
Nous attendrons demain qu'enfin changent les lois. En cet état de droit qui ne nous reconnaît pas. Voilà, sans façon, sans discours et sans hymne, quels que sont mon amour, mon homonyme. Si l'amour se consomme, et sans en faire un drame, différents états d'âme, mais quelques états d'âme, et quelques états d'âme.
Et si on changeait à présent d'échelle, et si on prenait du recul, et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens? Sur le sujet du droit au mariage pour les couples homosexuels, quelle est donc la position de l'instance qui est à l'origine de 80% des lois françaises?
Oui, parce que force est de constater que ce projet de loi, on l'a décrit, il a lancé un débat de société, dont il convient à présent de dévoiler un acteur méconnu mais très actif, l'Union européenne. Puisqu'en effet, plusieurs résolutions du Parlement européen demandent aux États de l'Union européenne de mettre en place une législation pour en finir avec les discriminations à l'égard des couples homosexuels en termes d'union, de mariage civil ou d'accès à l'adoption et à la parentalité.
Dès le 8 février 1994, le Parlement européen demande clairement aux États membres de mettre fin à, je cite, « l'interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de dispositions juridiques équivalentes », recommande également de leur garantir l'ensemble des droits et des avantages du mariage, ainsi qu'autoriser l'enregistrement des partenariats. Et de supprimer toute restriction aux droits des lesbiennes et des homosexuels d'être parents ou bien d'adopter ou d'élever des enfants.
Depuis, rapports et résolutions se succèdent dans ce sens jusqu'à la résolution de 2003, dans laquelle le Parlement européen réitère sa demande, je cite, « d'abolir toute forme de discrimination, législative ou de facto, dont sont encore victimes les homosexuels, notamment en matière de droit au mariage et d'adoption d'enfants ».
Aujourd'hui, 8 pays européens, dont 6 membres de l'Union européenne, reconnaissent le mariage homosexuel. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Portugal, l'Islande et depuis 2012, le Danemark.
Et l'Union européenne elle-même milite en faveur du droit des homosexuels, parallèlement aux astreintes en justice avec réparation financière pour préjudice moral de tout propos homophobe, l'Union européenne multiplie en effet les subventions pour les lobbies gays. En 2012, 995 000 euros ont été alloués par l'Union européenne au lobby gay ILGA, l'association internationale lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle et intersexuelle. N'en jetez plus.
N'en jetez plus, effectivement. Et une question donc, est-ce bien normal, pour reprendre un adjectif à la mode ?
L'objet principal est d'influencer les législations afin de garantir des droits aux homosexuels, particulièrement au niveau du mariage, répond pour se justifier la Commission européenne, pour qui militer pour l'égalité des droits pour les couples homosexuels au mariage et à l'adoption serait donc, si on comprend bien, une façon de lutter contre l'homophobie. Les 995 000 euros alloués à ILGA seraient donc, si on suit le raisonnement, à mettre en relation avec d'autres programmes soutenus par l'Union européenne pour l'intégration des homosexuels et la lutte contre l'homophobie, comme par exemple le chèque de 160 000 euros de la Commission européenne à la Fédération sportive européenne gay et lesbienne, et oui, ça existe, pour lutter contre l'homophobie dans le sport.
L'Union européenne, pourfendeuse de l'homophobie et pro-mariage gay, et aucun démocrate chrétien pour s'en insurger, en Allemagne ou en France ou ailleurs encore, comme si le débat avait eu lieu à Bruxelles bien avant qu'à Paris. Comme quoi, il est bon sur la question du mariage pour tous, comme sur bien d'autres sujets, et vous y êtes habitués maintenant, chers auditeurs, de changer d'échelle et de voir la politique avec des yeux d'Européens.
Parce que l'Union européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnels. Jérôme Bastic vous présente régulièrement sa chronique « Vue d'Europe ». Bonjour Jérôme.
Bonjour Thomas, bonjour
alors,
à tous.
Loin de l'agitation française, de cette France divisée en deux, tu veux nous parler aujourd'hui d'un pays traditionnellement jugé calme, la Suisse.
Oui, un sujet beaucoup moins clivant, ça c'est sûr. On va faire un petit zoom sur ce petit pays qui est bien européen, mais qui n'est pas membre de l'Union européenne, la Suisse. Alors la Suisse qui semble toujours davantage s'éloigner de nous, malgré une opinion publique assez divisée, notamment entre les élites, et les couches populaires nettement moins europhiles. Il y a tout juste un peu plus de 20 ans, en décembre 92, les Suisses refusaient par référendum l'entrée de leur confédération dans l'espace économique européen, après un long débat passionné sur la place de la Suisse dans une Europe en pleine reconstruction à cette époque.
Ah bah débat passionné quand même. Hein.
Débat passionné, bah, oui. Passionné à la Suisse.
Oui d'accord.
Et c'est donc la peur fondamentale de perdre son identité suisse, de lâcher sa souveraineté nationale et de se fondre dans un grand ensemble flou qui l'a finalement emporté. Depuis lors, la Confédération helvétique, accord bilatéral après accord bilatéral, il y en a maintenant plus de 120, s'est taillé un costume sur mesure. Qu'on le veuille ou non, qu'elle le veuille ou non, la Suisse fait partie du grand ensemble européen. C'est un fait. Elle est contrainte de s'adapter aux grandes avancées de la construction européenne. La libre circulation dans l'espace Schengen, auquel elle a effectivement adhéré en 2008. Ou encore l'union monétaire et l'euro, auquel elle a arrimé la valeur du franc suisse en 2011. Un franc suisse sur trois des recettes du pays provient des échanges économiques avec l'Union européenne. Et dans la plupart des domaines, la Suisse ne peut qu'appliquer finalement des décisions prises par d'autres, par l'Union. Peut-être que si elle ouvrait un peu les yeux, elle verrait dans une nouvelle participation, une éventuelle participation accrue au projet européen, une possibilité d'avoir plus de poids dans ses décisions. Alors le 5 décembre dernier, le grand quotidien suisse Le Temps pariait, dans un grand optimisme, sur une convergence entre Berne et Bruxelles et sur la fin de l'exception helvétique d'ici 10 ans, d'ici 2022.
Ah bah c'est rapide hein.
Dans ce même numéro, Viviane Reding, la vice-présidente de la Commission européenne, regrette que tout le potentiel de la relation entre la Suisse et l'Union européenne ne soit pas exploité et elle lance un appel à la Suisse à davantage participer au processus décisionnel de l'Union plutôt que de considérer celle-ci comme un territoire ennemi. Cependant, cela ressemble bien plus à un vœu pieux qu'autre chose lorsque l'on regarde la réalité du paysage politique suisse aujourd'hui. 20 ans après leur nom, les Suisses, selon un récent sondage, seraient 57,8% à rejeter toute idée d'adhésion à l'espace économique européen et pas moins de 81,7% contre l'adhésion à l'Union européenne. Injectée à petite dose depuis deux décennies, la haine de l'Union est devenue nettement majoritaire en Suisse, écrit la journaliste suisse Joëlle Kunt. Et ce n'est pas la récente élection du nouveau président de la Confédération helvétique, Uli Maurer, qui va changer la donne.
Uli, c'est mignon.
Oui. Connu pour ses nombreuses petites phrases négatives à répétition sur l'Europe, ardent défenseur de l'indépendance de la Suisse, il constitue, par sa victoire électorale, un signe supplémentaire de l'isolement dans lequel le pays s'enfonce progressivement à l'échelle européenne. Certes, son rôle est essentiellement seulement représentatif, mais c'est quand même à lui que reviendra la tâche de prononcer deux discours très écoutés et très attendus qui définissent les liens entre l'Union européenne et la Confédération helvétique. Le discours du 9 mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe, auquel c'est vraisemblablement de très mauvaise grâce qu'il se prêtera, et celui du 1er août pour l'UDC, l'Union démocratique du centre, à Zurich, qui sera pour lui une tribune du patriotisme suisse décomplexé.
Tout un programme.
Alors les Suisses, qui ont mis 557 ans à mettre en place leur confédération,
ah oui, c'est long, là,
ne paraissent donc pas très pressés d'adhérer à une union qui, à cette échelle de temps, vient tout juste de sortir de l'œuf. Bref, à ce qu'il semble, en Suisse, le changement, ça n'est pas pour maintenant.
Très bien, bon, merci Jérôme. Sans langue de bois, c'est le choix d'entendre s'exprimer toutes les opinions politiques. Place donc maintenant au deuxième éditorial de l'émission et à une nouvelle recrue, Willem Ardouin.
Bonjour Will.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous.
À ton tour, tu souhaites aborder la question du mariage pour tous, mais avant de t'écouter, place à une anaphore devenue célèbre, c'est bien ça?
Exactement Marie-Ève.
Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie. Et il est légitime qu'il puisse y avoir, sur ces questions-là, de grands débats citoyens.
C'est en ces termes que l'ex-candidat à la présidentielle souhaitait, l'année dernière, promettre un quinquennat sous le signe de la raison. Fini les guéguerres d'opinion, fini les combats de pouvoir, fini les luttes fratricides. Et pourtant, à l'heure des bonnes résolutions, la France ne s'unit pas. C'est même un divorce national en grande pompe relayé par les médias. Pour ce divorce, il y a les opposants au mariage et les supporters, mais ils ont bien mal choisi leurs avocats. D'un côté, de Civitas à Frigide Barjot, les opposants, qui sont alors réduits à l'image d'ultra-catholiques traditionnalistes. De l'autre, des femmes à Caroline Fourest, les supporters, dont on ne voit qu'une branche d'activistes extrémistes. Le projet se voulait pourtant pacifiste, en prenant des termes neutres, mariage, pour tous. Mais il suffit d'une déclaration ou deux, et c'est tous les médias qui prennent le feu, et deux armées se lèvent, s'emparent des étendards, en dépit de ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie, et qui suppose que tout le monde puisse prendre la parole. Depuis des semaines, en effet, on ne voit à la télévision que deux types de personnages. L'opposant farouche, qui en appelle à la société et au pathos, face au farouche supporteur, qui en appelle à la société et au pathos. C'est un combat d'opinion, là où il devrait y avoir un débat raisonné. Ce n'est pas tant la question du mariage qui oppose les militants des deux bords, mais le sens même à donner aux mots. Mais les quelques journalistes qui tentent d'instaurer ce débat ne trouvent personne pour répondre à leurs questions. Et c'est parti pour la débâcle des arguments extrémistes et, donc, caduques. Le 16 décembre, à la manifestation de l'inter-LGBT à Paris, on pouvait lire sur certaines pancartes « Non à la messe en latin, oui au mariage en français » ou encore « Bébé dans les congélos, c'est pas le privilège des hétéros ». On peut aussi mentionner Caroline Fourest qui, dans l'émission « On n'est pas couché » du 12 janvier, s'est lancée dans une démonstration aussi obscure qu'insane pour prouver que Jésus est né d'une PMA orchestrée par Dieu.
Un gros mélange des genres en somme.
Tout à fait.
Procréation spirituellement assistée.
Mais il n'y a pas que les supporters qui abondent d'arguments. Je cite, c'est la boîte de Pandore qui va permettre demain que d'autres revendiquent le droit à un mariage polygame ou un mariage incestueux. Ou encore, oui à la famille, non à l'homophobie. Et enfin, Frigide Barjot de s'exclamer, nous n'avons rien contre les homosexuels, nous voulons seulement protéger les enfants. Et au milieu de ces harangues, le gouvernement de s'embourber dans une fâcheuse liberté de conscience des maires en novembre 2012, avant de s'enfermer dans un glorieux silence. La rupture de société qui inquiétait le cardinal Barbarin le 14 septembre 2012 n'est pas dans le mariage, mais dans le combat d'opinion qui le précède. La situation évoque amèrement les débats autour du PACS qui ont débuté en 1990, lorsque le sénateur PS Jean-Luc Mélenchon déposa une première proposition de loi sur le statut des couples homosexuels, proposition finalement adoptée 9 ans plus tard, le 13 octobre 1999, alors qu'aujourd'hui, seuls 6% des PACSés sont homosexuels. Bruno Fulini, historien et secrétaire des débats à l'Assemblée nationale en 1999, souligne que, je cite, « le débat sur le PACS a été l'un des plus virulents de l'histoire de l'Assemblée ». Fin de citation. Dans les années 90, la violence était évidente. Aujourd'hui, les discours sont polissés. Mais ce n'est qu'un voile qui recouvre la confrontation des homophobes et des catophobes. En effet, comment accuser aujourd'hui quelqu'un comme Frigide Barjot qui affirme qu'elle aime les homosexuels et qu'elle a plein d'amis homosexuels? Et pourtant, le mal est fait, l'homophobie est là. Elisabeth Ronzier, présidente de SOS Homophobie, précise « Depuis fin septembre, nous avons eu une hausse d'appels vertigineuse. En décembre 2012, nous avons eu 3 fois plus d'appels qu'en décembre 2011. Il s'agit d'une hausse d'environ 30% sur l'année à cause des derniers mois. » On retient aussi l'affaire des tweets hashtag si mon fils est gay. Le combat sur le mariage pour tous libère en effet une parole violente, une homophobie latente. Mais ce n'est pas tout. Ce combat révèle de plus une catophobie latente. De celle-ci, on parle peu. Elle n'en est pas pour le moins virulente. Tous les croyants sans distinction sont rangés dans le même sac, à côté de ceux qui affirment qu'un enfant ne peut pas s'épanouir normalement s'il n'a pas un père et une mère, c'est contre nature, détruisant au passage les familles monoparentales et recomposées. Les catholiques deviennent les grands méchants, et peu importe ceux qui ne manifestent pas, ceux qui soutiennent le mariage pour tous, oui oui, il y en a, et l'association David et Jonathan. En somme, le combat à propos du mariage pour tous met au jour une xénophobie latente, c'est-à-dire une peur globale de l'autre. La société française se retrouve prise dans une lutte, et chacun est pris à partie selon la grande théorie du « si t'es pas pour, t'es contre, si t'es pas contre, t'es pour ». Les clichés en vogue ne permettent pas, cependant, d'être par exemple pour le mariage, mais contre l'adoption et la PMA. La xénophobie constitue deux groupes, ceux qui sont pour tout et ceux qui sont contre tout. Et ces deux groupes, forts de leurs préjugés respectifs et des clichés qu'ils attribuent à l'autre, crient leurs opinions aussi fort qu'ils en sont capables. Alain Escada, celui qui a comparé le mariage pour tous à une boîte de Pandore, a assuré vouloir libérer la parole des Français. Elle s'est libérée, pour que s'exprime toute la violence des clichés et des préjugés, pour que s'exerce une xénophobie globale qui divise la société française, les pro-mariages revendiquant l'égalité, les anti-mariages prônant la liberté de parole et de conscience. Et au bout du compte, on peut conclure, comme Aimé Césaire, fraternité, point d'interrogation. Les jeunes homos, les jeunes cathos et les jeunes tout court grandissent dans la haine de l'autre, dans l'adversité. Espérons que Shakespeare ait le fin mot de l'histoire, beaucoup de bruit pour rien.
Merci Will.
Dans la rubrique droit de suite maintenant, nous vous tenons informés de l'évolution de sujets et de questions que nous avons pu déjà traiter dans de précédents numéros, parce que le traitement de l'information ne devrait pas se résumer à ce flux tendu où valsent sans retour les sujets.
Ainsi, nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises déjà, d'aborder la question du non-cumul des mandats à la une d'une précédente édition du journal politique.
Oui, Marie-Ève, et la question du non-cumul des mandats, engagement de campagne de François Hollande qu'il compte bien tenir, divise profondément la classe politique, les parlementaires au premier chef, vous pensez bien, et ceux à droite comme à gauche.
Et de chaque côté, les arguments s'entendent. Ceux qui militent en faveur du cumul des mandats expliquent que leur expérience de maire, par exemple, leur permet d'être plus au courant des dossiers et de mieux défendre les intérêts des gens. Ceux qui sont opposés au cumul expliquent que pour bien faire son travail de député, il ne faut avoir que cette activité et que ça n'empêche pas d'être sur le terrain auprès des gens dans sa circonscription.
Pour Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, le président de Debout la République, qui est député de l'Essonne et maire de la ville d'Hyères, le cumul des mandats est une tradition française qu'il ne faut pas abandonner et de déclarer.
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais plus être maire de ma petite commune que j'aime, donc j'aurais le droit d'être avocat d'affaires. Je trouve cela scandaleux. Je préfère qu'on garde cet enracinement local qui est la tradition de notre pays. J'ai été réélu à 80% des voix comme maire, 60% comme député. Si les gens estimaient que je ne faisais pas bien mon travail, ils ne m'auraient pas réélu.
Je suis parfaitement pour la limitation des mandats, estime. Quant à lui, le député UMP de Haute-Savoie, Lionel Tardy, partisan du non-cumul des mandats, on voit bien donc ici que sur ce sujet, le clivage gauche-droite n'est pas opérant et il continue. Aujourd'hui, on a 86% d'élus cumulards à l'Assemblée, c'est plus qu'au Sénat, donc je crois que le non-cumul va dans le bon sens et honnêtement, quand on nous dit qu'on est coupé des réalités, je suis député et je n'ai pas cette impression. Ça amènera d'autres profils de personnes et ça permettra aux femmes de monter davantage et de prendre des places. Moi, ça me va.
Fin de citation. Une classe politique divisée et un clivage gauche-droite dépassé donc pour une question d'actualité, puisque lors de ses vœux parlementaires, mercredi 16 janvier au soir, François Hollande devait préciser le calendrier d'adoption de cette proposition dont il a rappelé qu'elle s'appliquerait pour tous les parlementaires, et ce, quelle que soit la taille de la collectivité locale concernée.
J'ai demandé au Premier ministre de préparer un projet de loi pour en terminer avec le cumul entre un mandat national et un mandat exécutif local. Cette réforme entrera en vigueur si le Parlement en décide, durant le quinquennat, a-t-il déclaré.
François Hollande a par ailleurs annoncé qu'une réforme constitutionnelle, qui comprendra notamment la suppression de la Cour de justice de la République et une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, serait soumise au Parlement réuni en congrès d'ici l'été.
Oui Marie, pour en revenir à la question du non-cumul des mandats, François Hollande, il est donc resté assez flou, mais ferme, se fixant comme seule limite le quinquennat, et non plus une entrée en vigueur avant les municipales, comme cela avait pu être abordé. Prudence donc du côté du gouvernement, alors que nombre de parlementaires de la majorité présidentielle elle-même ne cachent pas leur réticence, voire leur franche hostilité à cette réforme.
Et pour espérer que ce texte soit voté, François Hollande aurait d'ailleurs tout intérêt à passer par la case référendum.
Et oui, parce que contrairement au mariage pour tous, un référendum pour limiter le cumul des mandats est tout à fait possible, précise le constitutionnaliste Guy Carcassonne dont on parlait tout à l'heure, et de citer le même article 11 de la Constitution, selon lequel le président de la République peut en effet décider d'organiser, sur proposition du gouvernement ou du Parlement, un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics. Le non-cumul des mandats rentrerait dans ce cadre.
Mais Thomas, le risque politique serait alors quasi nul, puisqu'une majorité de Français sont pour une telle réforme. Selon un sondage LH2 Nouvel Observateur paru le 12 novembre, 71% y sont favorables, 43% des Français toujours estiment même que cette réforme est tout à fait nécessaire.
Le référendum éviterait donc au gouvernement un camouflet, plus que probable au Parlement, affaire à suivre donc. Et on termine comme d'habitude sur une note plus légère.
On a en effet beaucoup, beaucoup parlé du mariage pour tous dans cette édition du journal politique. Sujet brûlant, sujet polémique. Et si on souriait maintenant un peu de tout ça?
Et quoi de mieux pour cela qu'une bonne vieille Christine Boutin, ressortie du placard avec son éternel tailleur strict, son air sévère malgré un énième relooking raté, et ce sourire qui sent son homard charif, genre « les PD, vous le savez, c'est ma grande passion ». C'est surtout le seul sujet pour lequel on lui tend encore un micro à la Christine Boutin, et il faut bien dire qu'on est rarement déçu. En effet, la présidente du Parti chrétien-démocrate, oui, vous savez, le parti allié à l'UMP, sauf quelques mois avant le dépôt des candidatures de chaque élection, afin de faire parler de lui, d'être invité dans les médias, de récupérer un gros chèque et de renouer l'alliance avec le parti fondé par Alain Juppé. Oui, donc Christine Boutin s'est fendue d'une solution miracle, pour le moins surprenante, pour réconcilier opposants, dont elle fait partie, rappelons-le, et partisans au mariage gay, je cite, ou plutôt Marie-Ève cite.
Mais sans imiter la voix, le droit au mariage est ouvert à tout le monde. Les homosexuels peuvent se marier naturellement, mais avec une personne de l'autre sexe.
Énorme blague.
Oui, énorme blague. Alors personnellement, j'ai beaucoup rigolé et j'ai voulu immédiatement réserver ma place pour le passage de Christine Boutin au point virgule, mais je n'ai rien trouvé sur le site de la FNAC. Pas même une tournée ou une inauguration de la fête de l'andouille à Vire, non. C'est Christine Boutin devait être sérieuse. Ben oui, sérieuse, comme quand elle s'en est prise sur BFM TV à François Hollande en ces termes.
Monsieur le Président, vous qui êtes tellement attaché au mariage, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'exemple? Vous proposez le mariage pour les homosexuels et vous-même, dans votre vie personnelle, vous n'avez jamais choisi de vous marier. Pourquoi est-ce que vous voulez l'imposer à tout le monde et en particulier aux homosexuels?
Ben oui, François, ils n'ont rien demandé, les homosexuels. Alors plutôt que de reporter sur ces pauvres petits déviants ton fantasme inassouvi, prends ton courage à deux mains et va voir Valérie. Mets-toi à genoux et dis-lui « Valoche, je sais que tu veux garder ta liberté de tweeter et que tu es une femme indépendante, mais est-ce que tu ne voudrais pas arrêter d'emmerder tout le monde ?» Et surtout les homosexuels, donc, et m'épouser. Sois un homme, François, un vrai.
Bref, vous l'avez compris, la Boutin 2013 est un peu bouchonnée, on est loin du millésime. Mais comme on dit, avec un gros rouge qui tache, tout le monde rit, personne ne se fâche.
Une question demeure, Christine Boutin a-t-elle pété les plombs? Avant, elle avait des arguments, peut-être contestables, mais des arguments quand même. Elle s'érigeait en passionnariat de la famille, en bras armé de la morale. Mais là, là, elle s'en prend à Hollande qui n'est pas marié alors que selon elle, les homosexuels peuvent déjà tous se marier avec des femmes. Peut-être qu'elle n'a pas digéré le fait d'être remplacée dans les médias, dans le rôle de porte-parole de la famille et de l'homophobie latente, par Frigide Barjot, jusque-là connue pour ses grands écarts en petite tenue sur les tables du Banana, et c'est vrai qu'il y a de quoi foutre un coup au moral.
Bref, pour 2013, souhaitons à Christine Boutin de retrouver sa place de premier plan dans la lutte contre le mariage pour tous. Elle qui inspire tellement Thomas pour le sujet de fin d'émission. Et notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier, à Antoine et à la technique, sans qui cette émission ne peut pas se faire, tout simplement.
Merci également à Colline, Mathilde et Jérôme pour leur aide dans la préparation et la réalisation de cette émission.
Merci enfin à nos deux éditorialistes de la semaine, Louis et Will.
N'oubliez pas non plus d'aller du côté de la page En Plus pour retrouver les meilleurs sujets de l'émission en version écrite et originale.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e numéro de Sans langue de bois, Paroles de militants. Ça sera le 15e numéro de Sans langue de bois, sinon au total. Et Tatiana Fauconnet reviendra avec des militants de toute sensibilité, Front National jusqu'à Front de Gauche, sur les événements politiques marquants de l'année 2012 et les perspectives pour 2013.
D'ici là, en plus de réviser ces tables d'addition, on ne change pas les bonnes habitudes. Surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.